Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Uber Files, le scandale éclabousse les politiques du monde entier. Elon Musk et Twitter entament un tango de la mort. Le Z-Event prend la good décision. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes en juillet 2022. Je ne suis pas Patrick Béja. Mais vous écoutez bien, le Rendez-vous Tech, effectivement, comme chaque année, l'équipe Nowtech pirate le Rendez-vous Tech. Enfin, pirate, on laisse surtout Patrick partir en vacances.
Oui, voilà.
Nous le remplaçons un petit peu dans l'économie participative, dont on va beaucoup parler dans cette émission. Et j'ai avec moi mes merveilleux co-présentateurs de Nowtech. Je veux bien sûr parler de Marion. Bonjour Marion, comment ça va ?
Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour de nouveau débriefer de l'actualité tech. Ça me manquait un petit peu là avec les vacances d'été.
Eh ben écoute, on est toujours sur le pont, les pirates sont toujours sur le pont.
Tout à fait.
Comment vas-tu Guillaume ?
Mais ça va, une nuit un peu courte, il commence à faire chaud à Paris là.
Eh oui.
On souffre un petit peu, mais très heureux d'être là, c'est vrai que l'actu est bien tendax niveau
mais,
tech.
On va
là.
Bientôt filer à Amsterdam, nous, pour la TwitchCon, où il fera plus frais.
Quel plaisir,
on
s'échappe.
Exactement, En tout cas, merci à tous de nous rejoindre dans ce rendez-vous tech. On va essayer de pas trop changer les habitudes de ceux qui écoutent, mais bien évidemment, nous ne sommes pas Patrick Béja.
We are not Patrick.
Donc, il y aura probablement une ambiance différente. Et d'abord, une chose, c'est que les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, il y a pas mal de sujets qui vont toucher un petit peu à la politique, à la société, à ce genre de choses.
Complètement.
On ne va pas trop parler de hardware dans cette émission. On va plutôt être réseaux sociaux, implications sociales de la tech. Donc, ça peut en déconcerter certains. Mais c'est ça aussi le mug. Rendez-vous tech de l'été.
Oui,
On change un peu les habitudes.
On va certainement partager un peu parfois des opinions politiques, mais on le fait avec respect.
Tout à fait.
Bien
en
sûr.
Été. Et on va faire ses courses en slip de bain, et ben le rendez-vous tech, il est différent aussi en été. Cette phrase ne veut absolument rien dire. Je vous propose qu'on commence tout de suite parce qu'on a trois gros dossiers ce matin. On va parler effectivement des Uber Files dont tout le monde parle depuis deux jours. On va parler de Twitter et d'Elon Musk et on va parler du Z-Event. Ça va être nos trois gros dossiers. On va commencer avec les Uber Files. Alors, je vais prendre un peu la parole pour essayer d'étricoter un petit peu cette histoire, pour la rendre plus digeste, la couper en petits morceaux et en faire une brochette. Voilà, pour qu'on
ça se voit.
Pour que Marion et Guillaume puissent mâcher un petit peu les sujets petit bout par petit bout, parce que c'est un fichier énorme. Les Uber Files, c'est 24 000, je crois, échanges qui ont été leakés. Alors, déjà, l'histoire du leak en elle-même, c'est déjà quelque chose.
124 000.
Merci pour la précision. Et je ne retrouve plus mes notes d'émission, mais ça va venir tout de suite. Le leak vient pas de n'importe qui. La personne qui leak, il s'appelle Mark McGahan. Et ce Mark McGahan, il n'était rien d'autre que le responsable lobbying d'Uber entre 2014 et 2016. Donc c'est un vrai leak de l'intérieur qui a été transmis aux journalistes du monde entier, en tout cas un consortium de journalistes d'investigation. Cette personne, je vais la faire courte, mais elle fait ça un peu dans une démarche, on va dire, presque de rédemption.
Oui, donc c'est bien
Il se sent coupable.
C'est une fuite volontaire.
C'est une fuite volontaire. C'est une personne qui se sent coupable, du coup, qui devient lanceur d'alerte. C'est une fuite qui concerne des échanges, surtout entre 2014 et 2017. Au sein d'Uber, donc ça c'est quelque chose d'important à remettre en perspective. On ne parle pas forcément du Uber d'aujourd'hui, mais on parle du Uber Travis Kalanick, c'est-à-dire quand il y avait ce dirigeant-là. Après, il y a des implications sur le Uber d'aujourd'hui, mais en tout cas, le leak en lui-même ne concerne pas des fichiers d'Uber aujourd'hui. Donc ça, c'est important à comprendre. La deuxième chose, parce qu'on en a beaucoup parlé en France à travers le prisme politique de Macron qui serait au centre, on va dire, des Uber Files. C'est pas tout à fait le cas. C'est un fichier, c'est des fichiers internationaux. Actuellement, il y a l'administration Biden qui s'occupait de ça sous Obama, qui est dans la sauce aussi. Les Allemands sont dans la sauce aussi. Il y aurait même eu des échanges d'actions. Donc, c'est presque plus grave, ce qui se passerait en Allemagne. Justement, on va d'abord commencer par la partie internationale avant de rentrer dans la partie franco-française et Macron. Et on va d'abord commencer par les pratiques d'Uber, parce que ce que nous dévoilent ces fichiers, c'est les pratiques, on va dire, de cow-boys, de barbares, de vikings, de tout ce que vous voulez. En tout cas, des méthodes très invasives de Uber. Si vous avez regardé récemment, Chèque Marion l'a regardé très récemment, la série Super Pumped, c'est ça, Super Pumped, qui raconte justement l'histoire de Travis Kalanick, ce dirigeant hors norme, c'est je suis gentil en disant ça, mais un personnage un petit peu bizarroïde, débridé. On va dire débridé, avec des méthodes très... Alors justement, on va parler de ça. On parle souvent de la disruption des startups, et on voit avec Uber des méthodes extrêmement extrêmes. Le move fast and break things qui a animé les startups des années 2010 finalement pourrait être caricaturé dans les démarches d'Uber qui prenaient d'assaut les pays où les législations, il n'y en avait quasiment pas autour du transport en ville. Ils imposaient leur truc dans l'illégalité ou en tout cas dans l'absence de loi encadrant leur activité. Un petit peu comme, d'ailleurs, on peut le noter, a fait Airbnb ou a fait Blablacar.
Complètement,
c'est-à-dire exister avant même que le cadre légal existe.
Mais Airbnb s'est construit en volant les données de plein de gens sur Craigslist, si je ne dis pas de bêtises. C'était ça, ils avaient aspiré les données pour pouvoir développer leur site web, ce qui est inimaginable aujourd'hui à l'époque du RGPD, de la vie privée protégée, des choses comme ça.
Tout à fait, mais même au-delà de ça, ils ont créé des marchés qui n'existaient pas, donc dans lesquels il n'y avait pas de législation, c'est-à-dire Airbnb a pris l'allocation, qui était un marché hyper ronflant et où il se passait rien. Uber a pris d'assaut le transport des gens urbains, le transport, on va dire, personnel urbain. Blablacar, le transport de ville à ville.
Covoiturage.
On prend que quelques exemples, mais ça a été ça, 2010, les startups. Alors, c'est la première question que je vous pose. C'est un petit peu une question rhétorique, mais... Ces méthodes qu'ont utilisées les startups dans les années 2010 pour prendre d'assaut les marchés, est-ce que justement, elles ont fait plus de mal que de bien ? C'est-à-dire, est-ce que la fin justifiait les moyens ? Aujourd'hui, on ramasse un peu les pots cassés. Comment on pourrait tirer un bilan, en fait, de ce « move fast and break things » ? Marion, peut-être pour commencer ?
Question simple, merci Jérôme.
Ouais, de rien, ça me fait plaisir. Non, en vrai, qui veut réagir ?
Non, mais je te rejoins sur l'aspect que le principe des startups, c'est d'identifier potentiellement des nouveaux business ou des nouvelles manières de répondre aux besoins des utilisateurs et des nouvelles opportunités business. Et donc, ça tient au fait que des fois, le cadre légal n'existe pas ou n'a pas prévu ces cas-là. Donc ça, c'est une chose. Et c'est ce sur lequel ils jouent, c'est ces frontières, ces limites et cette législation qui n'existe pas encore, qu'ils vont un petit peu bousculer. Et ça s'est fait. Et il y a aussi un intérêt de le faire pour le bien des utilisateurs au final. Je veux dire, on est content d'avoir des chauffeurs quand on prend une voiture qui sont agréables, qui disent bonjour et qui ne disent pas « Ah, je prends pas la carte bleue, surprise !» à la fin du trajet. Donc ça, c'est quand même agréable. C'était un des problèmes qu'on avait notamment à Paris. Je ne vais pas parler pour les autres villes parce que moi, je connaissais Paris. Maintenant, est-ce que la fin justifie les moyens ? Là, je suis un petit peu plus modérée, évidemment, parce que lorsqu'il s'agit de mettre en danger la vie de personnes ou le revenu et le moyen de vivre de certaines personnes, là, c'est un vrai problème. Quand on va encourager la violence, ce genre de choses, c'est un problème. Voilà, donc c'est peut-être une réponse un peu simpliste, mais on peut commencer par ça.
Oui, c'est là où Uber, de mon point de vue, par exemple, a pas mal, d'une certaine façon, précarisé aussi le marché du taxi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça génial d'être faire du VTC, de pouvoir arrondir les fins de mois, et je trouve ça peut-être plutôt bien. Mais effectivement, on peut se rendre compte que, aussi que Uber a cassé une partie historique du marché du travail en France. Et suivant ton prisme politique, tu vas le voir en bien ou en mal. Et c'est très compliqué, de toute façon, ce débat de beurre et tout ça. Hein.
Après, il y a le prisme politique, il y a aussi le prisme... Et bon, j'en parlais un petit peu avec Marion hier soir, donc je spoil un peu, mais quelque part, la situation des taxis avant Uber, c'était les utilisateurs qui se faisaient spoiler. Après Uber, c'est un peu les chauffeurs qui se font spoiler, les utilisateurs sont ravis dans l'ensemble, globalement. Et ça va peut-être être ma deuxième question. Enfin, j'approfondis un petit peu.
Pour prendre un peu de recul là-dessus, les chauffeurs avant, le nombre de licences disponibles à Paris pour être chauffeur était vraiment très limité. Et le prix de revente de ces licences, ce n'était pas à l'avantage des chauffeurs. Donc, il faut quand même un petit peu... je ne suis pas une experte du marché des taxis, etc. Mais le prix de cette plaque de licence de taxi, elle se revendait à des prix astronomiques.
C'était 250 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. Ou... C'était ouais, vraiment voilà, dans des centaines de milliers d'euros.
Maintenant, il y avait des enchères.
Ils passaient leur vie à rembourser.
Des enchères.
Ouais, non, c'est ça. Donc, attention à se dire que maintenant, c'est les chauffeurs qui se font avoir. Ce n'était pas non plus tout rose avant. Hein.
Il y a une chose à noter aujourd'hui, et ça va être un peu la deuxième partie de ma question, c'est finalement tous ces Uber files parlent de Uber avant 2017. Le Uber d'aujourd'hui, en tout cas avec le changement de dirigeant, et a adopté une philosophie complètement différente. Est-ce qu'on n'en entend plus trop parler en termes de scandale, Uber, depuis 2017? Ça s'est calmé, en tout cas, largement calmé. Mais attends,
je te laisse finir.
Jusqu'au bout de la question. On voit aussi, et ça c'est un phénomène parisien, mais on voit par exemple que G7 est en train de remonter. L'application G7 est de plus en plus à la mode. Les taxis, après un écrémage et après une adaptation au marché nouveau, est en train, moi j'ai entendu quand même quelqu'un de la tech nous dire l'autre jour, ah, maintenant je prends plus que des G7, c'est vachement mieux qu'Uber. Oui. Donc quelque part, la loi du marché de la concurrence a quelque part changé le marché. Est-ce que c'était un mal pour un bien? Est-ce qu'on doit passer par ces disruptions de marché parfois violentes? Alors, c'est allé très loin, hein, parce qu'il y a eu des manifs, il y a eu des blessures, il y a même eu des morts, hein, dans le cas des chauffeurs Uber. Est-ce qu'on a besoin, en gros, un petit peu de ce côté, on chamboule tout pour que les marchés émergent? En gros, si Uber avait attendu que la législation se mette en place pour exister, Uber n'aurait jamais existé. Est-ce que Uber, il faut revenir en arrière? Est-ce qu'il faut arrêter Uber? Je pose ces questions,
ouais,
Guillaume.
Ouais, il y a mon côté entrepreneur qui te répondrait oui. Et il y a mon côté un
mais
peu...
Mais oui à quoi?
Oui, c'est bien de disrupter, de casser un peu des choses. Mais il y a mon côté un peu de gauche, quoi, qui te dirait à quel prix sur le travail, sur la protection des salariés. Tu dis qu'il n'y a pas de scandale depuis 2017, mais il y a quand même beaucoup de lectures plutôt à gauche qui critiquent encore beaucoup le système Uber Eats avec des livreurs à vélo précaires, pas forcément protégés correctement. Donc Uber est quand même continuellement dans la sauce sur un spectre d'analyse politique bien défini. Donc c'est en ça où moi j'ai encore un bilan assez mitigé, voire négatif d'Uber. Je les vois comme une société, je ne vais pas dire le mal, ça serait très caricatural, mais je les vois beaucoup comme une société qui est pas un modèle de société qui me plaît beaucoup, quoi. Même si je reconnais qu'effectivement ils ont bien changé le marché du taxi. Et il y avait besoin. Mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'Uber pour améliorer les choses? C'est compliqué. C'est vrai que parfois, un coup de pied, ça fait du bien aussi. Je sais pas. C'est une question extrêmement compliquée. J'ai pas de réponse claire dans ma tête. Et je pense que, en fait, c'est plutôt bien, entre guillemets, de pas avoir une réponse claire à ce sujet-là parce que c'est un sujet très complexe. Il n'y a pas de bonne réponse et de bonne vision. Marion, je sais pas si tu as un avis là-dessus. Hein. C'est peut-être un peu flou ce que j'ai dit, mais...
Moi, je pense que là où c'est positif, c'est qu'avant, il y avait un certain monopole. Encore une fois, je vais parler de Paris parce que c'est celui que je connais. Mais bon, G7 était quand même en position de monopole. Hein, et ça, c'est jamais très bon, ni pour les chauffeurs, ni pour les utilisateurs. C'est bon que pour G7. Et c'est un vrai problème. Moi, c'est mon avis très personnel sur le sujet. Uber est pas est quand même un compétiteur, mais pas exactement sur le même business model. Encore une fois, moi, je pense qu'on peut critiquer la méthode. Je pense que c'est quand même bien d'avoir de la compétition. Certains chauffeurs Uber sont ravis de leur indépendance et de pouvoir maîtriser leurs horaires, etc. D'autres, en effet, quand tu as un pépin de santé qui arrive ou un pépin dans ta vie qui peut nous arriver, bah, ils ont beaucoup moins de protection que s'ils étaient employés. Et ça, c'est un problème. Et est-ce que peut-être la question n'est pas à porter sur le statut de ces travailleurs indépendants et améliorer peut-être ce statut de travailleur indépendant et arrêter de tout penser via le spectre CDI, quoi.
Ou auto-entreprise. Ouais, enfin,
ou autre entreprise, mais on n'est plus vraiment dans ce modèle de société où il n'y a qu'un type d'emploi qui est reconnu et validé et utilisé par les gens. Maintenant, on a des méthodes de travail qui sont plus ou moins flexibles, des statuts qui sont plus ou moins flexibles. Et est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'essayer de comprendre un petit peu ces statuts, ces nouveaux modes de travail pour rester ouvert, mais en essayant de rester vrai à notre culture française de sécurité en cas de pépin. Je pense, encore une fois, c'est un avis très personnel, et là, on rentre un peu dans la politique, je pense qu'on a un peu trop de sécurité d'emploi en France. Je pense que ça ne va pas plaire à...
Aïe, 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 aïe.
Ça
crispe le marché de l'emploi et ça bloque la création de certaines entreprises aussi. Ça rend aussi plus difficile de se lancer. D'un autre côté, ça protège un peu plus. Ça protège des personnes qui s'assoient un petit peu dessus aussi, quoi, qui se confortent un peu avec cette sécurité. Donc, je pense qu'il faut trouver un peu le juste milieu ici pour à la fois redynamiser l'emploi et tout en gardant une certaine sécurité quand tu as des pépins de la vie qui t'arrivent et que ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Je pense qu'on a cette culture solidarité en France qui est importante.
Ce qu'on disait tous les deux, en fait, c'est vrai qu'un statut intermédiaire entre l'auto-entreprise et le CDI, le salariat, serait quelque chose qui pourrait être intéressant à créer, à développer en France.
Le problème, c'est qu'il y a un paradoxe français sur le travailleur indépendant, ce qu'on appelait autrefois le travailleur indépendant, maintenant c'est micro-entreprise, micro-BNC, etc. C'est un statut qui a toujours été un petit peu bâtard en France parce que pas vraiment apprécié de l'administration en général. C'est-à-dire, si tu rentres pas dans la case salarié, c'est compliqué. On te met beaucoup de bâtons dans les roues.
Tu veux trouver un logement, t'es dans la merde. L'entreprise, ouais, voilà. C'est mort.
Certains le voient comme un statut trop protégé. Certains m'ont sorti sur Twitter hier que les gens qui étaient en micro-entreprise ne payaient pas de charges. Essayez la micro-entreprise, vous allez comprendre votre douleur. On paye même des choses auxquelles on n'a pas droit quand on est micro-entrepreneur. Donc, moi, je dis, plutôt que de se dire il faut que tout le monde soit salarié, ce qui bloquerait, scléroserait le marché et le changement de la place du travail dans la vie des gens, tout ça évolue dans le monde. Il n'y a pas que la France. Dans le monde, la place du travail dans nos vies change. Il faut aussi qu'on ait des statuts qui s'adaptent à ça. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour ça qu'il faut balancer à la flotte toute notre protection sociale et la protection du droit des gens qui travaillent. Mais un travailleur n'est pas uniquement un salarié. C'est presque le message moderne qu'il faudrait faire passer au niveau du droit du travail. Oui. Du droit du travail. Le salarié n'est pas le seul et unique travailleur en France.
Oui, en tout cas, enfin voilà.
Après... juste pour...
Ouais. Vas-y, Marie.
Ouais, juste pour rebondir sur ce que disait Guillaume, par contre, pour moi, la fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire que dans le cas d'Uber, il y a eu des pratiques qui ont mis en danger la vie pas de leurs employés, parce que ce ne sont pas officiellement des employés Uber, mais de ces travailleurs-là. Et là, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a eu un manque de respect, de considération et de protection de ces personnes-là manque de considération, on l'a vu par des déclarations de Travis Kalanick à l'époque. Hein. Il utilisait un petit peu ses chauffeurs comme des pions. Il leur faisait signer
des contrats.
Non, pas des contrats, mais pour faire pression sur les politiques,
des pétitions.
Oui, merci. Des pétitions pour faire pression sur les politiques, pour faire changer les lois, etc., en se les mettant dans la poche d'un côté. Et puis, de l'autre côté, ils augmentaient les taux et baissaient la rémunération. De toute façon, ils n'avaient plus le choix, etc. Enfin, il y a eu quand même un manque de considération. On a vu comment ils ont pu, ils étaient tentés d'orchestrer la colère des chauffeurs pour lutter contre la colère des chauffeurs de taxi à Paris. Et ça aurait pu vraiment dégénérer et ça a dégénéré un an.
Oui, il y a eu une grosse manif violente. Ça, ouais.
Voilà, donc ça, c'est pour moi, c'est là où c'est inacceptable. Et je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Je pense que c'est important qu'on reconnaisse les débordements et qu'ils soient sanctionnés en tant que tels. Mais il y a quelqu'un dans la chatroom qui disait tout à l'heure, je ne comprends pas, si tout allait bien chez Uber aujourd'hui, il n'y aurait pas ces files qui seraient publiées. Pour moi, ce n'est pas forcément lié.
Ouais, on rappelle...
Uber, y a eu...
On rappelle
il y a eu
quand même
personnes qui ont été pardon, ouais. Juste pour terminer, il y a eu certaines personnes qui étaient qui faisaient partie de la boîte à une certaine période qui ont permis ce genre de pratique et qui ont encouragé ce genre de pratique et qui ont mis à l'époque certaines personnes en danger. C'est celles-ci qui doivent prendre la responsabilité de leurs actes. Ça ne veut pas dire que Uber aujourd'hui, il faut tout jeter, quoi. Et il ne faut pas forcément sanctionner les pratiques d'aujourd'hui alors qu'elles ne se sont peut-être pas égales à ce qui se faisait à l'époque. Mmh. Là, je n'ai pas suivi Uber d'assez près pour juger, mais voilà. Donc, je pense que c'est intéressant quand même de revenir sur ce qui s'est passé à l'époque et sur le fait qu'il ne faut pas forcément cautionner.
Tu fais bien de le rappeler parce que c'est vrai que ce n'est pas assez rappelé, mais c'est quand même, ces Uber Files concernent le Uber... on va dire 2014-2016 essentiellement. C'est pratique, la fameuse killer switch dont on n'a pas parlé. Quand même, ils allaient très loin. Hein. Ils avaient un système pour empêcher l'accès au serveur dès qu'ils avaient un contrôle fiscal ou flé. C'est vraiment, là, on est d'accord pour dire que...
C'est illégal.
Au niveau des startups, ce qu'a fait Uber entre globalement 2010, 2016, 2017, le départ de Travis Kalanick, ce ne sont pas des pratiques acceptables aujourd'hui, même avec la disruption qui est nécessaire à une startup, ce n'est pas acceptable d'avoir des méthodes comme ça. Si vous avez regardé la série, on voit, ils mentent à Apple en faisant du géofencing autour d'Apple pour que Apple ne voit pas certains sous-programmes de l'appli Uber.
Ah ouais.
C'est vraiment des brigands. Ouais. C'était des brigands.
En fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que moi, j'étais assez fascinée par le génie par rapport à ça. Trouver des astuces pour pas permettre à Apple de voir la vraie version de l'application et pouvoir faire passer sa bêta, qu'elle soit approuvée sur l'App Store. Le principe
c'est
de,
le génie du mal, Marion.
Non, mais
tu es attirée par le génie du mal, attention.
Non, je suis pas attirée. En fait, il y a une notion, c'est le génie.
Oui.
Mais à quelle fin il est utilisé? Et on revient à la fin justifie les moyens? Non.
Ouais, non.
C'est-à-dire que certes, il y a du génie, mais il n'a pas été utilisé dans le bon sens, pour protéger les gens, pour améliorer le service, et pas que pour les end-users, pour faire plus de fric, etc. Comment il a utilisé et été utilisé ce génie qui est un problème.
On rappelle...
Mais il y a quand même du génie.
Ouais, on rappelle que le kill switch est totalement illégal, hein, c'est de l'obstruction à la justice
pure et dure.
C'est quand tu as des policiers qui viennent perquisitionner, c'est comme si tu mettais tes dossiers dans un espèce de coffre-fort et tu fais « Oh, j'ai oublié le mot de passe !» C'est vraiment, vraiment ça. Hein. Et d'ailleurs, ils faisaient semblant, les gars chez Uber, ils faisaient semblant de dire « Oh, l'ordi, il marche pas, je comprends pas. » Au point que ça devenait difficile de mentir, il y a eu des témoignages là-dessus, ça devenait difficile pour eux de faire semblant que ça fonctionnait pas. C'est dire à quel point ils étaient dans leur système, quoi.
C'était dans leur système, et ça, c'était à la fois le charisme et le défaut de Travis Kalanick. Moi, je l'ai vu en conférence en 2015 à Le Web. C'est quelqu'un de fascinant. C'est indéniable. Il captivait la foule. Il a une manière de parler passif-agressif. Mais le mec, clairement, est au-dessus des lois. Pour lui, les États n'existent pas. Même les États-Unis, rien à foutre. On reproche souvent à Uber d'être américain et que ça pourrait être une question rhétorique. Si Uber était français, est-ce qu'il y aurait des Uber files tels qu'on en parle maintenant? Mais c'est presque une autre question. Mais il en a rien à foutre, lui, des Américains. Il a fait la même chose aux États-Unis. Il s'est mis dans la poche, il a versé des pots de vin à des maires de ville. C'est un mec pour qui, alors clairement, la fin. Toutes les fins justifiaient les moyens. Enfin, tous les moyens étaient justifiés. On le voit dans la série, il a quand même pour modèle un patron de la mafia dans un film. En expliquant que quand la volonté s'exprime par la violence, elle passe, quoi.
Mais les films de mafieux sont des...
Ils sont fascinants.
Sont des succès. Le kill switch, en gros, c'est une fonctionnalité qu'a mis Uber en place qui permet à distance de couper les accès au serveur d'Uber. Voilà en gros ce que ça permet de faire. Donc ça permet de rendre, lors d'une perquisition, ça permet de rendre l'accès aux ordinateurs inutile. Parce qu'en fait, les ordis n'ont plus de fichiers sur les activités d'Uber. Voilà pour l'explication.
Ils avaient même fait une petite notice sur comment cacher son écran si un flic passait derrière dans les bureaux d'Uber dans le monde entier.
C'est
quoi.
Le génie du mal. C'est le génie du mal. Et est-ce qu'on parlerait pas du deuxième génie du mal, Macron?
Non, là c'est. Non, on va parler effectivement, mais peut-être plus brièvement parce que on n'est pas dans le rendez-vous politique.
Dommage,
mais on laissera ça à Jean Massier ou à d'autres. On est d'accord pour dire effectivement que l'économie circulaire, parce qu'on ne va peut-être pas tout focaliser sur Uber, parce que moi, c'est ce qui me dérange dans cette histoire. On se focalise beaucoup sur Uber. Rappelons-nous quand même 2015, 2016, 2017. Moi, je sais, j'allais à l'EWeb chaque année, etc. Uber était la boîte à la mode. Airbnb, c'était incroyable. BlaBlaCar en France, des levées de fonds spectaculaires. Enfin, la disruption dans l'économie, création d'emplois, une dynamique dans une France qui était un peu ronflante, une dynamique surtout qui créait des emplois. Ça, ne l'oublions pas. Et c'était dans le contexte, effectivement, avant, on va dire, le retour de bâton de la tech qu'on connaît globalement depuis 2019, pour moi. Ou le désenchantement de
c'est
la
vrai,
tech.
C'est vrai qu'il y a un retour à la réalité violent depuis 2-3 ans.
2017, on était encore dans la tech va changer le monde, va changer votre monde. Mmh. Et il le changeait. Mmh. Il tenait cette partie-là de la promesse. Notre monde changeait à toute vitesse. On est passé maintenant dans un monde où tech for good, parce qu'il n'y a que des méchants sur la tech et la tech est en train de tout péter. C'était juste pour remettre en contexte historique cette deuxième partie. On va parler effectivement de l'éclaboussure franco-française des Uber Files, où effectivement, à l'époque, notre président Emmanuel Macron était ministre de l'économie de François Hollande. Et dans ces Uber Files, on trouve un certain nombre de communications, notamment par SMS, d'entente, en tout cas de lobbying patent, indéniable. De lobbying indéniable de la start-up Uber envers le gouvernement français en place, qui à l'époque était très divisé sur l'arrivée des VTC en général, pas que du Uber. Hein. Il y avait aussi à l'époque le dossier BlaBlaCar, il y avait aussi le dossier Airbnb pour les grandes villes. Donc en fait, c'était presque la position du gouvernement Hollande par rapport à l'économie collaborative.
Uber était vu comme la peste à l'époque. Hein.
Par une partie du gouvernement.
Mais une grosse partie du gouvernement.
Une grosse partie du gouvernement, effectivement. Ouais, ouais. Mais pas par Macron, manifestement, qui effectivement était déjà dans son idée, maintenant on le sait, d'élection présidentielle.
Et start-up.
Il était aussi dans son idée de Startup Nation. Il voulait bousculer les choses. Il voyait une opportunité dans cette économie collaborative. Ce nouveau type d'économie, notamment pour faire baisser le chômage. Ce qu'on met en cause aujourd'hui, et on va peut-être parler de ça, c'est est-ce qu'un ministre de l'économie doit à ce point cacher des rendez-vous qu'il a avec des entrepreneurs? Est-ce que tout ça doit être public? Est-ce que c'est le rôle d'un ministre de l'économie? Parce que c'est un peu la défense aujourd'hui du gouvernement, c'est de dire, attendez, Monsieur Macron était ministre de l'économie, donc c'est normal que le ministre de l'économie rencontre des entreprises et s'occupe de ce genre de dossier. Vos réactions, sachant que le dossier est encore très chaud, pour l'instant, il n'y a pas de preuve de corruption directe. C'est-à-dire, a priori, en tout cas, parce que je parlais de l'Allemagne tout à l'heure, ça serait plus grave en Allemagne. Il y aurait eu des actions Uber échangées au niveau des hommes politiques. Là, pour l'instant, en tout cas, en France...
C'est pas du pot de vin. Il n'y a pas de pot de vin.
Il n'y a pas de pot de vin, en tout cas, direct ou facile à trouver, pour jeter un peu l'opprobre sur le truc. Ouais. Guillaume, je te sens bouillant, chaud.
Non. Attends, tu m'as fraudé pour... moi, tu me connais... J'ai un vrai problème philosophique, effectivement, avec le fait que Macron, à l'époque, donc ministre de l'économie, ait une ligne directe, parce que là, on ne parle pas de le ministre qui rencontre des dirigeants, mais au cours d'une réunion un peu officielle. Là, c'est vraiment « Ouais, salut, ça te dit un petit barbecue ? Ouais, vas-y, puis en SMS, ouais, alors Bernard Cazeneuve, il n'y a pas des soucis ? Ouais, on te règle ça. » L'histoire aussi, c'est qu'il y a eu un arrêté préfectoral à Marseille qui interdisait les VTC. Et en gros, le patron de Uber a envoyé un SMS à Macron en disant « Est-ce que tu peux t'occuper de ça ?» Quand un patron d'entreprise va aller contacter un président qui va influencer le maire de...
Ministre
à l'époque, ouais, qui va aller influencer le maire de Marseille pour revenir en arrière, ou plutôt adoucir l'arrêté préfectoral, là, c'est là où j'ai quand même des vrais problèmes philosophiques de à quel point l'influence est aussi imbriquée. J'ai pas forcément de problème avec le lobbyisme, parce que le lobbyisme peut être positif ou négatif. Il y a du lobby sur l'écologie, sur des choses comme ça, et ça me dérange pas. Mais à quel point ce lobbyisme-là est trop imbriqué, et c'est ça qui me dérange. Marion, je sais pas si tu as un avis là-dessus.
Je suis d'accord avec toi que le lobby, il peut faire avancer les choses, donc je pense qu'il est important à garder. Ça permet aussi au gouvernement de garder une proximité avec le vrai monde, de savoir qu'est-ce qui se passe au sein des boîtes, des business, etc. Ça permet de faire évoluer aussi la société. Maintenant, je rejoins un petit peu sur les échanges de textos. Ça me paraît une proximité un petit peu trop proche, voilà, pour dire les choses. Après, je ne sais pas dans quelle mesure c'est une pratique faite. Ça ne m'étonne pas tant que ça. Je suis pas, pour ainsi dire, je ne suis pas choquée. Pour moi, il n'y a pas de pot de vin, il n'y a pas de rémunération qui montrerait un conflit d'intérêts et qui poserait vraiment problème, comme des échanges d'actions, là, évidemment,
ou d'argent,
foncièrement ouais. contre. Ou d'argent, exactement. Mais ça, je comprends que ça peut paraître choquant, cette proximité-là. Je me demande dans quelle mesure c'est pas quelque chose qui est une pratique courante. Là, on fait affaire à quelqu'un qui est connu pour avoir un carnet de contact riche. Donc, il a développé son business et sa valeur dans une boîte, c'est d'avoir un carnet de contact rempli et donc de pouvoir faire jouer ses contacts. C'est un job, c'est un skill, c'est une compétence qu'on peut trouver. Je ne sais pas dans quelle mesure, ce n'est pas une pratique qui se fait, en fait. Je ne suis pas particulièrement choquée.
Mais après,
je comprends que ça peut poser problème de manière éthique, mais je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de très pas répandu.
Oui, après, même si ça se fait de façon courante, ça en reste pas moins critiquable, hein.
Je sais pas dans quelle mesure c'est si critiquable que ça, parce qu'en fait, t'es là aussi où tu veux une certaine cohérence dans la stratégie du gouvernement. A priori, Emmanuel Macron, il est ministre de l'économie, il a son mot à dire sur ce qui va impacter l'économie. Il est peut-être pas d'accord avec l'arrêté qui a été fait à Marseille. Il va peut-être échanger du coup avec son équipe parce qu'il est pas au courant de tout ce qui est en train de se passer, des moindres arrêtés qui sont passés. Et donc là, on lui porte à son attention, il y a cet arrêté-là. Bon, oui, ça nous pénalise, nous, mais il est quand même pas con. Enfin, c'est un politique. J'espère quand même qu'il prend 2 secondes pour analyser de est-ce que ça va dans le sens de sa politique ou pas, avant de se dire « Ah ben non, je vais favoriser Uber plutôt qu'une boîte, quoi. » Quand même. Voilà. Moi, je suis pas particulièrement choquée.
Moi, je pense que vous avez raison. Il faut pas oublier une chose. À l'époque, Uber était encore dans cette espèce de flou juridique qu'ils essayaient d'entretenir, de dire « Nous, on est une société tech. » On s'occupe juste de mettre en contact un client avec un VTCiste. Airbnb disait la même chose. Nous, on ne loue pas des appartements. On est simplement une plateforme technologique pour mettre en contact une personne qui cherche un appartement et un appartement. Blablacar, j'aime bien redire Blablacar parce qu'il y a aussi des startups françaises qui ont aussi été dans ces changements législatifs. Sous le gouvernement de François Hollande, il s'est passé beaucoup de choses et les lois qui ont été promulguées, les changements qu'il y a eu à l'époque, n'ont pas concerné que Uber. Ils concernaient le marché de l'économie collaborative. Et oui, peut-être qu'une partie du gouvernement de François Hollande était contre l'économie collaborative, mais l'économie collaborative amenait quand même beaucoup d'argent dans les caisses. Une solution pour le chômage qui, à l'époque, quand même, était très haut. Donc, de dire, je pense que Emmanuel Macron était seul dans le gouvernement Hollande à vouloir favoriser l'économie collaborative, je pense qu'on va un petit peu loin en relecture de l'époque. Mais ça, c'est mon avis personnel.
Oui, c'était pas la ligne... Non, c'est une bonne remarque.
Voilà. Et je pense, moi en tout cas, de ce que j'ai lu pour l'instant, hein, très modestement, je pense que Macron était déjà en train de préparer sa présidentielle. Évidemment. Donc, il n'en avait rien à foutre de François Hollande et des décisions politiques de François Hollande. Il est en train de construire sa Startup Nation. Donc, souvenez-vous quand même à l'époque, parce qu'en 2015, c'est là où Montebourg a dit Dailymotion ne doit pas être revendu aux Américains, ça doit rester le fleuron français. On en était là, hein, de la Startup Nation en 2015. Donc, je pense que Macron a dit non, si on fait ça, on aura zéro startup en France. Elles vont toutes se barrer et ça, il faut pas. Donc, après, on pourrait parler du bien fondé de cette décision, mais il a pris cette décision en pensant à son futur, quoi.
Oui, oui, et puis Macron est adepte vraiment des thèses néolibérales, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, tu connais mon opinion là-dessus, mais effectivement, il est cohérent avec lui-même depuis le début.
Vu qu'on est à fond dans la politique, terminons quand même, parce que moi, c'est la question qui me fait. Est-ce que cette économie collaborative, c'est l'avenir ou ça nous a plus foutu dans la merde qu'autre chose ? Ça... Et là, je parle de tout. Airbnb, Blablacar, Uber.
Vous avez 4 heures pour la dissertation.
C'est hyper dur.
Doctolib, Deliveroo, tout ça. Est-ce que ça nous a rendu... Est-ce que la société est mieux ou pas ?
De mon point de vue, je me réfère toujours à cette statistique. Est-ce qu'il y a plus de pauvres qu'avant ? Est-ce qu'il y a plus de disparité entre les plus pauvres et les plus riches ? Si la réponse est oui, ça veut dire que les changements vont pas dans le bon sens. Voilà ma réponse qui est un peu nulle parce qu'elle est méga courte. Alors que
non, mais elle a le mérite d'être claire.
Mais voilà un peu moi ma vision des choses. Pour moi, une société qui va bien, c'est une société qui va à l'équilibre. Les classes moyennes augmentent. Les personnes pauvres et très pauvres sont de moins en moins pauvres. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes. Et je parle avant le Covid, parce que le Covid est une période à part. Tu pourrais me
répondre. Oui, oui. C'est une parenthèse.
Voilà. Moi, c'est ma
une parenthèse désenchantée.
C'est ma vision des choses. Maintenant, mon côté d'entrepreneur qui aime bien ça. J'aime le fait qu'il y ait des choses qui bougent aussi dans ce milieu-là. Moi, je suis une contradiction vivante. Je suis à la fois de gauche, mais à la fois l'entrepreneuriat.
Ah, est-ce qu'on c'est va horrible. Voir Guillaume se déchirer en deux,
c'est
en
horrible.
Fait, en direct.
Mais non, mais de toute façon, c'est des débats qui sont pas manichéens. Tu peux pas, tu peux pas dire c'est bien, c'est mal. C'est voilà, il y a du bien.
Ah, mais tu sais, en France, il faut avoir des opinions tranchées, Guillaume. Tu ne peux pas être des deux bords non plus.
Ouais, de toute façon, c'est de la merde.
Voilà. Marion,
je t'en prie.
Sur l'économie collaborative, toi, tu penses qu'on y gagne ou on y perd globalement ?
Non, enfin, je pense pas que c'est très intéressant. Comme l'a dit Guillaume, c'est pas aussi simple que ça. Je pense qu'il y a des choses positives, il y a des choses négatives, il y a des risques à faire. Je pense que la pauvreté, elle se règle pas au simple sujet de l'économie collaborative. Elle ne se limite pas à ça. Maintenant, la pauvreté, c'est un vrai problème. Les inégalités, c'est un vrai problème. Faire fuir les plus riches, c'est un vrai problème aussi pour le pays. Donc, encore une fois, c'est une question d'équilibre à trouver. Mais peut-être qu'on peut passer au sujet prochain, parce qu'il est quand même presque
50.
C'est vrai que c'est le sujet du moment, hein, les Uber Files, donc ça méritait qu'on passe un petit peu de temps, mais c'est effectivement pas le seul sujet du moment. Et ça va pas être des sujets plus simples, hein, les deux autres sujets qu'on a. On va peut-être revenir un petit peu rapidement dessus, puisque Patrick a déjà abordé toute l'affaire Elon Musk Twitter. On a un petit peu, alors c'est pas encore la conclusion, hein, c'est juste un nouveau rebondissement. Elon Musk a annoncé il y a quelques jours qu'il se retirait de sa promesse d'achat.
Attends, je tombe de ma chaise.
Tombe de ta chaise.
Oh, je suis
voilà.
Tombé.
Elon Musk annonce un énième revirement en disant, alors c'est son excuse entre guillemets, c'est de dire Twitter m'a menti. Twitter a plus de fake et de faux comptes que prévu. Donc, ça rompt, parce que pour préciser aux gens, c'est important de comprendre, il y avait un accord qui devait durer 6 mois entre Twitter et Elon Musk, dans lequel Elon Musk s'engage à acheter Twitter, mais il n'a pas encore acheté Twitter.
Oui.
C'est un peu compliqué, mais c'est, ça se passe comme ça. Mm. J'allais dire chez McDonald's, mais non, de partout, dans un contrat. Donc, c'est un contrat de rachat dont il peut encore sortir s'il arrive à justifier que les conditions du contrat ne sont pas respectées.
C'est ce qu'il tente.
Et c'est ce qu'il tente en disant « Twitter ment sur les vrais chiffres ». Ce à quoi, je la fais courte, Twitter a déjà répliqué en disant « on va te coller un procès parce que tu n'as pas le droit de sortir dans ce contrat de revente. Tu dois racheter Twitter. Tu t'es engagé. Donc maintenant, tu dois nous racheter. On va régler ça au tribunal. » Ce à quoi Elon Musk a répondu hier soir à sa grande façon, sur Twitter quand même, en mettant une série de mèmes, en disant « Ha ha ha, j'ai bien eu Twitter ». Puisque maintenant, au tribunal, ils vont devoir montrer leur faux boot, enfin leur faux compte. Donc, ça va se régler au tribunal. Donc, on est encore dans de la bravache. Pile on est encore dans du « tu me tiens, je te tiens par la barbichette ».
Ou pile, je gagne, face, tu perds.
C'est un peu le problème. Après, juste avant de vous laisser la parole, c'est indéniable qu'il y a un problème de faux compte chez Twitter. Encore récemment, on peut acheter des faux comptes sur Twitter, faire gonfler artificiellement son nombre d'abonnés. C'est très pratiqué par des influenceurs, par des célébrités, par des journalistes. C'est à peu près 50 euros les 1000 faux comptes. Et il y a des gens qui sont implantés en France qui vendent des faux comptes comme ça. Ils sont plus ou moins visibles. Maintenant, il y en a qui sont assez doués pour faire des faux comptes, on va dire, de qualité. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la situation, Marion, Guillaume ? Est-ce que Elon Musk, est-ce qu'on en a marre ?
Tu veux commencer, Marion, ou je commence comme...
si tu veux, je pense que si Elon Musk, est-ce qu'on en a marre, oui.
Oui, moi,
il... Ces espèces de petites sorties stupides sur Twitter, inintéressantes. Enfin, franchement, en fait, j'ai du mal à comprendre la stratégie ici d'Elon Musk et en quoi ça va lui profiter. Est-ce qu'il a fait ça pour faire baisser la valeur de Twitter et pouvoir continuer et poursuivre avec le rachat avec un meilleur prix derrière ? Parce que là, en fait, il met vraiment Twitter en danger. Lui qui disait qu'il apprécie énormément Twitter, il n'arrête pas de s'exprimer dessus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une des personnalités ou des comptes les plus suivis sur Twitter. Il a l'air d'apprécier, vu qu'il l'utilise tout le temps. Mais du coup, on ne comprend pas trop ce qu'il essaye d'en faire. Est-ce qu'il essaye de faire baisser le prix pour le racheter à un prix plus avantageux ? Est-ce que finalement, il s'est rendu compte que ça n'allait pas être aussi simple que ça ? Mais je pense quand même qu'il est plus smart que ça.
Je et pense
sinon,
pas,
il
n'en
aurait... il en serait pas... Je me demande, tu vois,
moi,
entre l'ego...
Il a joué, il a perdu.
Ouais, entre l'ego et les coups de sang qu'il peut avoir, est-ce qu'il a vraiment fait une connerie ici et il essaye de se rétracter ? Parce que, mine de rien, ça a un impact aussi sur la valorisation de ses autres boîtes. Hein. Parce que, se dire que le CEO, il est splitté entre 5 compagnies, ça commence à bien faire. En termes de gestion et même d'idées, de génération d'idées, il a beau avoir beaucoup d'idées, ça fait quand même beaucoup. Donc, pour continuer à dire, ça me fatigue en fait, ce genre de sortie un peu inutile. Il met vraiment en danger Twitter ici. Donc voilà, j'ai du mal à comprendre un petit peu le jeu ici. Donc ça m'intéresse, Guillaume, d'avoir ton avis.
Moi, pas grand-chose à rajouter. Je suis content qu'Elon Musk ne prenne pas la direction de Twitter pour une autre raison aussi, c'est que c'est quelqu'un qui prenait beaucoup la liberté d'expression. La fameuse liberté d'expression, qu'en fait, dès que tu l'actives, ça fait ressortir les idées les plus puantes de l'humanité. Donc, en fait, je suis. Moi, pour l'instant, je suis très, très content de comment ça se déroule. Je ne crois pas en la liberté d'expression pure et totale. Je pense que c'est une connerie. Je crois beaucoup en une modération éclairée des choses. Parce que voilà, dès qu'il y a de la liberté d'expression pure, c'est l'enfer des fesses, quoi. Donc, voilà. Et Elon Musk prenait beaucoup ça. Maintenant, ce qu'on peut remarquer à Elon Musk, pour dire du positif sur le bonhomme, c'est compliqué, mais c'est un excellent rhétoricien. C'est quelqu'un qui a très très bien compris les codes d'Internet. Ça, c'est clarinette, comme j'aime bien le dire. Il a très bien compris tous les codes. Il a compris que tweeter en provoquant, ça marchait bien.
L'indignation est le moteur de Twitter.
Il joue sur tous les codes classiques de l'anti-héros. très bad guy, l'anti-héros qui va se moquer du physique de Bill Gates, l'anti-héros qui va attaquer des gens sur Twitter, etc., etc. Et ça, il l'a très bien compris. Et dans notre société du spectacle, ça fonctionne. Et comme diraient de grandes personnes, on vit dans une saucisse.
Une saucisse, voilà. Tout à fait. Alors,
juste pour préciser quelque chose, Jack Dorsey n'est plus CEO de Twitter.
Oui, depuis longtemps.
Un certain temps, parce que j'ai vu des petits messages dans la chatroom. Donc, en fait, il n'y a pas de question de est-ce qu'il va partir, ou, etc. Il est déjà parti.
Non, et en plus...
est déjà parti, ouais. Jack Dorsey. C'est Parag Agrawal qui est CEO de Twitter à l'heure actuelle.
Tout à fait. Après, Jack Dorsey était d'ailleurs plus dans le camp... d'Elon Musk, mais je pense qu'il était surtout dans le camp que Twitter ne doit pas être une entreprise. On approfondira, ou Patrick approfondira peut-être ça dans d'autres news, mais ça va être un peu ma dernière question sur Twitter. Marion, sens-toi libre après ce sujet, si toi tu dois partir, nous on peut continuer l'émission, Guillaume et moi, tu nous dis, tu sois à l'aise par rapport à ça. C'est vrai qu'on a passé pas mal de temps sur le premier sujet. La question que je vais vous poser sur Twitter. Twitter, on sait que c'est une entreprise extrêmement fragile, qui gagne très peu d'argent par rapport à son nombre d'utilisateurs, qui a du mal à recruter des nouveaux utilisateurs. Est-ce que cette dernière bravache d'Elon Musk, qui a mis à mal les actions de Twitter, qui étaient déjà au plus bas, elles descendent maintenant dans les tréfonds de la bourse. Moi, personnellement, je pense que Twitter n'a jamais été aussi proche de sa mort. Honnêtement, les seuils de rentabilité sont au plus bas. Ils vont devoir virer du monde, ça me paraît inéductable. Ils en ont déjà viré, hein, de toute façon. On voit que des dirigeants de Twitter sont en train de partir. Est-ce que vous pensez que, un, Twitter peut survivre à cette situation? Et deuxièmement, est-ce que Twitter doit survivre?
Oui et oui. Moi, je pense qu'à partir du moment où un réseau social a un tel impact sur la planète... parce qu'on est au-delà, par exemple, de Vine. On pourrait citer l'exemple de Vine qui, lui, est mort, machin, mais c'est pas la même chose. Twitter est un outil mondialement utilisé, politique, qui a des milliards d'utilisateurs, je sais pas, mais des millions au moins d'utilisateurs. Rien que par ce fait-là, Twitter ne mourra pas. Peut-être qu'il va, ça va être compliqué.
Bah, si t'as pas d'argent pour rentabiliser les serveurs, il va mourir.
Tout à fait. Mais
oui.
Il y aura toujours la possibilité de mettre un peu plus de publicité. Il y aura toujours des business models qui peuvent être réfléchis. En tout cas, par le fait que Twitter
non, mais,
ait de l'importance...
Excuse-moi de t'interrompre, mais tu fais une erreur qui est souvent faite, à mon avis, sur Internet. Parce qu'un truc a des utilisateurs, il ne peut pas mourir. Faux, c'est même le contraire. Plus tu as d'utilisateurs, plus ça te coûte cher d'avoir ton réseau social. Parce qu'un utilisateur, c'est de la bande passante, c'est de la modération. Donc, c'est des coûts, en fait, avant d'être de la rentabilité. Mm-hmm. Donc, si tu ne trouves pas un business model et ajouter de la pub, tu ne peux pas le faire ad vitam aeternam.
Je suis d'accord.
Voilà. Donc, c'est souvent une erreur qui est faite par les gens, c'est de croire que parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, ça va survivre. C'est le business model qui compte.
Ce n'est pas les utilisateurs, c'est plus l'influence qu'a ce réseau actuellement.
Oui, mais ça ne rapporte pas d'argent, l'influence, directement.
Tu
as besoin d'argent pour faire tourner une boîte
alors,
comme ça.
Je vais le dire différemment. Je ne crois pas en la mort de Twitter.
D'accord.
Je ne pense pas que ça mourra. Je t'en prie, Marion, si tu veux réagir à ça.
Alors, la première question, c'était...
c'était, est-ce que Twitter va survivre à cette situation?
Ouais.
Et deuxièmement, est-ce qu'il doit survivre?
Sur la première question, je suis d'accord avec toi. Je pense que Twitter était déjà dans une situation très précaire. Ils avaient accéléré notamment sur les mises à jour, les nouvelles fonctionnalités pour à la fois protéger certaines paroles et certaines minorités sur le réseau social et à la fois développer le business model de la plateforme. Et c'est bien parce qu'ils avaient, depuis des nombreuses années où on se demandait qu'est-ce qu'ils faisaient, bah là, ils commençaient vraiment à délivrer. Le problème avec toute cette affaire, c'est qu'en fait, ça défocus l'équipe, quoi.
Ouais.
Je veux dire, en fait, au lieu de faire ton travail, t'es là en train de réfléchir, mais qu'est-ce que ça veut dire si Elon Musk devient CEO? Ça veut dire quoi pour je travaille en remote, le mec est contre le remote. Enfin, je travaille à distance, le mec est contre le travail à distance, etc. Et donc, en fait, ça ne fait que casser la concentration et le focus des équipes quand ils ont vraiment pas besoin de ça. Et donc, c'est un vrai danger. C'est le pire que tu peux faire à une boîte qui doit bouger vite, c'est de ne pas être concentré sur tes objectifs les plus importants, quoi. Et donc là, ils sont en train de faire pareil avec le procès. C'est encore quelque chose qui va casser le focus des équipes, ralentir. Ouais. Et donc, ça met vraiment Twitter en danger. Maintenant, sur est-ce que Twitter devrait survivre? C'est difficile comme question. Je ne sais même pas si j'ai un avis dessus. Moi, honnêtement, je ne m'exprime plus sur Twitter. Je trouve ça tellement facile de tomber dans une polémique dès que tu commences à exprimer ta propre opinion. Moi, je trouve ça de plus en plus intimidant de s'exprimer sur Twitter. Et donc, si vous regardez mon compte Twitter, je ne fais que retweeter tweets gentils.
Moi, je
trouve ça dommage.
Beaucoup de gens qui disent que Twitter, c'est le mal, Twitter, c'est pas bien dans le chat, je vous comprends. Vous oubliez peut-être que quand même Twitter a permis des avancées sociales, en tout cas dans nos pays occidentaux, mais des avancées sociales incroyables. On peut penser à MeToo par exemple. C'est un mouvement qui n'aurait jamais été né.
Est-ce qu'il n'aurait pas pu naître sur d'autres réseaux sociaux ?
Je n'y crois pas une seule seconde.
En fait, moi, le problème Twitter... Et c'est là où je rejoins Jack Dorsey. En fait, Twitter ne devrait pas être une entreprise.
Oui.
C'est-à-dire que Twitter, du fait même de son fonctionnement, ne sera jamais un bon business. Comme l'est Facebook, Instagram et tout ça, qui sont des usines à cash, donc qui peuvent grossir, qui peuvent investir de l'argent, qui peuvent continuer à progresser. Twitter devrait être une assos. Twitter devrait être une fondation. Twitter devrait être comme Wikipédia. Twitter et Jack Dorsey va dans ce sens-là. Il aimerait que Twitter ne soit plus une entreprise, ne soit pas une entreprise déjà dans le public, c'est-à-dire il veut l'enlever de la bourse. Ça, c'est la première étape. Et ça, je pense que oui. Pourquoi ? Parce que Twitter ne résistera jamais à des actionnaires. C'est pas une boîte pour faire de l'argent.
Je suis d'accord avec toi.
Mais Twitter, pour moi, même, et vraiment, j'aimerais presque que Twitter meure pour que ça soit repris par un truc genre Wikipédia ou qui est une organisation type. Oui, parce que je pense que fondamentalement, et ça c'est une conviction personnelle, Twitter est hyper important pour l'humanité.
Je suis d'accord avec toi.
C'est l'AFP mondial sans AFP. C'est-à-dire tout le monde peut potentiellement devenir un gros buzz.
Un mini-journaliste
temporaire. Que tout le monde écoute à un moment donné sur Twitter, avec une facilité d'utilisation qui fait que même dans les pays les plus pauvres du monde, on peut avoir un accès à Twitter parce que ce ne sont que des messages, c'est même pas des photos.
Oui, c'est quelques kilo-octets.
C'est quelques kilo-octets. Donc en ça, Twitter a une vocation à être une espèce d'agence de presse internationale qui n'est pas contrôlée par les agences de presse. Mais aujourd'hui, ça a été construit comme une boîte privée qui doit être rentable, qui doit payer des employés et du coup, qui est vouée à l'échec, à mon avis.
Tout à fait.
Donc, c'est un avis assez fort, mais je pense que Twitter doit mourir pour renaître.
Mais non, moi, tu me dis de faire un truc open, libre, je suis très content. Hein, let's go. Hein. Alors, il y a des gens qui ont cité Mastodon, effectivement, mais... Mastodon, c'est compliqué. Twitter est trop, implanté là. Ouais.
Le truc, on me dit Wikipédia a du mal à se financer. Oui, mais le rôle de Wikipédia n'est pas de faire du profit. Ils n'ont pas des actionnaires. Ils n'ont pas besoin de faire d'une augmentation de la marge tous les ans. C'est surtout cette liberté-là dont a besoin Twitter. Twitter ne doit pas avoir une pression. Bien sûr, ils doivent être rentables, payer leurs employés, la bande passante, etc. Mais comme une assoce, ils doivent avoir un objectif de rentabilité, non pas de profit comme une entreprise.
Et on peut penser à un fonds commun international et des solutions comme ça. Des gens vont dire quoi ? Mais on va payer avec nos impôts ? Indirectement, oui, mais ça existe déjà. L'Europe a déjà de l'argent mis en commun pour la santé, par exemple.
Moi, je pense que Twitter est un truc pas de salubrité publique, mais d'utilité publique.
D'utilité publique.
Je pense que Twitter, aujourd'hui, tel que vous le voyez, non, parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit que des polémiques et des trucs à la con, mais globalement... C'est quand même quelque chose qui nous permet d'être informés de trucs qui seraient jamais passés par les canaux du journalisme autrefois.
Tout à fait.
Tout à fait.
C'est marrant, je comprends votre positionnement, mais j'y crois pas du tout. Je pense que c'est absolument pas possible que ça devienne autre qu'une société privée. Parce que la contrainte même de Twitter, c'est l'instantanéité. Et ils se retrouveront toujours dans des situations où il faut qu'ils fixent des problèmes relativement rapidement. Rapide ne rime pas avec fonds communs.
Je sors ma carte contre Uno, Marion, car Wikipédia le fait très bien et rapidement. Dès qu'il y a des trucs qui sont...
Je trouve pas forcément, justement. Bah, en fait, c'est-à-dire que si tu bloques les sorties, parce qu'en fait, ils sont limités en nombre de personnes qui peuvent revoir les modifications, donc ils vont bloquer les sorties. Mais si tu as vraiment besoin de modifications de fonctionnalités, du type nouvelle feature pour protéger l'expression des gens, etc. Feature versus modération, c'est deux choses différentes, quoi. Wikipédia, je veux dire, je sais pas, cite-moi la dernière feature qu'ils ont mis en place.
Non, mais bien sûr. Mais je parle de la modération, pas des features. Et sur la modération,
ouais, je pense que ça suffit pas. Je pense que ça suffit.
Oui, non, mais j'entends un argument qui n'est pas faux.
Et c'est pour ça que je pense que Twitter ne pourra pas marcher en autre chose que société privée, avec ses problèmes, avec les problèmes que ça engendre.
C'est un argument, je l'entends.
Ouais, on aimerait bien qu'il y ait un good Elon Musk qui donne juste son argent et qui dit « Allez, ça continue ». Plus de problème de rentabilité, plus rien.
Allez.
Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Marion, tu dois peut-être nous quitter ou tu veux rester?
Ouais, je vais en profiter pour m'éclipser, en effet. Merci.
Des bisous.
Grand bisous à toi, Marion. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. On va pas dire où est-ce que on peut te retrouver, puisque
c'est écrit là,
c'est
déjà.
C'est chez Naotech, effectivement.
C'est là.
Sinon. Voilà, c'est écrit. Et tu peux, on te retrouvera dès la rentrée, dès septembre, dans le mug Naotech, l'émission sur Twitch.
Suivez-nous sur
à
Twitch.
À 8h. Du matin.
Exactement.
Et qui reprend en septembre, parce que là, on est un peu en vacances. L'émission est en vacances.
Enfin,
nous, on n'est pas en vacances du tout.
Vacances, là, dans le décor.
Merci beaucoup, Marion. Salut.
Des bisous.
Ciao.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
On passe à la troisième partie des gros dossiers. On va accélérer un petit peu parce que, comme d'habitude, on est en retard. Hein.
Il fait faim, là. Il est très bien.
Il fait faim, oui, il fait quand même faim. Ouais. On va parler un petit peu du Z-Event. Alors, je vais chanter toute la première polémique autour du Z-Event. Parce que j'ai pas envie d'en parler.
Polémique raciste, tout ça.
Voilà. J'ai pas envie d'en parler.
C'était débile.
Pour nous, c'était débile, sans fondement, etc., etc. Parfait. On va parler plutôt de la deuxième partie. Alors, resituons le Z-Event parce que tout le monde ne connaît pas. C'est un événement organisé par les streamers historiques de Twitch.
Zerator et son équipe
et ses amis, on va dire.
Oui, à la base.
Il invite quand même des nouveaux participants à Twitch chaque année. C'est un événement caritatif qui se déroule sur un week-end, qui est destiné à lever une somme pour une association. Et c'est justement ce qui s'est passé cette année. Alors d'abord, première surprise, ils ont annoncé un Z-Event un peu en avance par rapport aux autres années.
Ouais, début septembre.
Début septembre. Et Zerator a dit, c'est le dernier Z-Event sur cette formule.
Ouais.
Et pour ce dernier Z-Event, j'aimerais que ça soit une cause écologique.
Ce qui est très bien.
Et c'est pour ça que nous avons pris comme association pour le Z-Event, où iront les fonds, Good Planet.
Aïe. Ça a été un peu compliqué.
Alors, c'est parti très vite en sucette. D'abord parce qu'il y avait une autre polémique avant.
Ça, on met de côté.
Mais on met de côté. Mais ce que je veux dire, il y avait déjà de l'agitation autour du hashtag Z-Event sur Twitter. Beaucoup se sont emparés effectivement de Good Planet en disant « Mais cette association est toxique, c'est pas une bonne association. » Plusieurs raisons à ça étaient invoquées. La présence de Yann Arthus-Bertrand, le photographe...
Faisait grincer des dents.
Faisait grincer des dents parce que c'est quelqu'un, même s'il y a des démentis depuis, qui aurait un peu cautionné la Coupe du Monde au Qatar, qui oui. va être la Coupe du Monde la plus polluante, la Coupe du Monde de la pollution.
Puissance 1000. Hein, pour un mec à la tête d'une entreprise, d'une association écologique, c'est un peu compliqué.
De toute façon,
après, il a démenti. Hein. Il
a démenti, mais bon, c'est pas la première polémique autour de Yann Arthus-Bertrand. Bertrand, c'est quelqu'un qui sait qu'il faut des grosses sommes d'argent pour l'écologie, qui du coup fait des compromis pour avoir des grosses sommes d'argent pour l'écologie. C'est un des premiers reproches qui est fait d'ailleurs à Good Planet, qui amène au deuxième. C'est d'une association où il y a beaucoup de grandes entreprises qui, dire de certains, utilisent Good Planet pour faire du greenwashing, pour cacher leur activité de pollution. Alors, je fais l'avocat, Patrick le fait très bien, je fais l'avocat du diable.
Bonjour monsieur l'avocat du diable, comment allez-vous ?
Ma petite cravate rouge.
Vous êtes bien habillé.
Oh, je suis l'avocat du diable,
Le diable s'habille en 64.
En 64, ça devrait être 66 en fait.
Exactement.
666,
très bon.
Je suis l'avocat du diable. Good Planet est une grosse association sur l'écologie qui gère des gros fonds. Et pour ça, oui, ils ont besoin des grosses entreprises. Donc, je pose juste la question. Une grosse entreprise qui pollue, il vaut mieux qu'elle ne donne pas d'argent à une association écologique ou qu'elle en donne quand même ? Je pose juste la question naïvement.
Et c'est une question très compliquée, monsieur l'avocat du diable.
Voilà. Est-ce que Total ne doit pas donner d'argent à des associations ? Alors, si derrière, c'est uniquement pour communiquer, genre Total Vert, regardez, on est chez Good Planet, là, je suis d'accord, c'est du greenwashing éhonté, mais dans l'absolu... Est-ce qu'on doit empêcher une entreprise comme Total, qui est une entreprise polluante, de verser une partie d'argent à des associations écologiques ? Ah, tu t'y attendais
non,
pas,
non,
celle-là ?
Non, je suis bien sûr que si. A priori, moi, c'est là où mes lectures, beaucoup d'experts et de militants et militantes qui se sont renseignés sur Total disent que, bon, c'est très greenwashing, quoi.
Oui.
Mais c'est une lecture. Après, il y a des gens qui n'auront pas cette lecture-là. Et
certains diront,
ouais,
mais c'est de l'argent quand même. Pour la cause écologique.
C'est compliqué.
C'est compliqué.
Mais il y a un autre truc pour Good Planet, c'est tout le délire autour de la biodynamie.
Oui, alors ça, c'est la troisième polémique qui, à mon avis, est celle qui a vraiment fait vaciller Zerator.
C'est la goutte d'eau qui a vraiment...
Ouais, puis je pense que là, on est dans un domaine surtout... On est encore dans le Covid et tout ça, les complotistes. Il y a cette histoire de la biodynamie. Alors... Pour ne pas rentrer dans la polémique, parce que honnêtement, j'ai découvert un peu, comme tout le monde, ce qu'était la biodynamie.
Je ne connaissais pas du tout.
Mais alors, ça a l'air d'être une méthode qui est pas mal employée chez les viticoles, en tout cas.
Mais qui n'est basée sur aucune preuve scientifique.
Aucune preuve scientifique, avec des trucs. Alors, c'est sûr, quand on décrit comme ça, ça fait un peu chamanisme. Genre, c'est des cornes de vache qu'on remplit soit avec de la bouse, soit avec un autre truc qu'on plante et après on récupère le terreau et selon quoi ça favorise un peu des énergies cosmiques. Alors c'est vrai que vu comme je le décris, on est là, pour ceux de ma génération, on appelait ça la pierre farouche du Nord, qui est un vieux sketch des nuls. Voilà, très ésotérique on va dire. Et le problème c'est qu'en plus c'est un mouvement assez sectaire.
Oui, qui est mis sur le site du gouvernement.
Qui est mis sur le site du gouvernement.
Comme une secte.
Truc sectaire. Et du coup, je résume, Good Planet, gros bad buzz, repris par tout Twitter. qui a dit à Zerator, tu peux pas faire le Z-Event, nous on n'y va pas. Certains influenceurs ont dit, on n'y va pas parce que Good Planet c'est pas top.
Mais par exemple, Magla était une des premières à refuser.
Voilà, contre polémique derrière, certains ont dit, Magla et je sais plus qui, vous êtes bien gentils, mais Magla t'es chez Yves Saint Laurent qui fait du maquillage avec des animaux. L'autre qui a refusé, t'as pris un sponsor chez Big Mac. J'ai trouvé que c'était une contre-attaque débile parce qu'il y a une différence entre donner son nom. Enfin, faire du sponsoring business et du sponsoring associatif.
Mais
pour
oui.
moi, il y a une différence.
Puis tu vis dans une on vit dans une saucisse où c'est. Tu vas forcément participer au capitalisme à un moment ou à un autre, à moins de t'isoler complètement.
Non, après, donc je suis d'accord compliqué. Que dans la mesure du possible, il faut éviter de faire du sponsoring avec des entreprises cracra. Mais si on doit trouver que des entreprises qui font que des bonnes choses, t'en trouveras zéro.
T'en trouveras quasiment jamais.
T'auras toujours une polémique. Revenons à ça, parce que ça, c'était encore un truc. Du coup, Zerator a fait, à mon avis, la seule chose à faire. Il a dit, OK, Good Planet, répondez aux questions que pose Twitter. Il a résumé les questions que se posaient les gens. Répondez. Vous avez jusqu'à le week-end dernier pour répondre. Good Planet a choisi, plutôt que de répondre point par point aux accusations, a dit, on se retire. Alors ça va être la première partie de ma question, mais avant, j'aimerais quand même terminer. Du coup, Zerator a dit, OK, il n'y a plus Good Planet. Maintenant, à vous de décider. Il a donné, je crois, 15 ou 20...
Une vingtaine
d'associations. Et les gens doivent voter. Alors ça sera ma deuxième question. Ma première question,
oui.
C'est... j'ai oublié.
Ah. Non, la deuxième, alors.
Ma première question, c'est... c'était ça. Est-ce que Good Planet aurait pu se sortir de la sauce en répondant aux questions, même si les réponses étaient bonnes? C'est presque une question rhétorique, mais quand t'es à ce niveau-là de sauce, avec tout le monde sur le dos...
Elle avait un peu tourné la sauce, quand même. Hein.
Est-ce que tu peux t'en sortir? Même si tu dis la vérité. Est-ce que c'était pas finalement le bon move de dire OK, on laisse tomber parce que là c'est même pas
comme
la peine.
Comme ils avaient l'air de vraiment supporter la biodynamie à 100%, parce qu'ils ont pas.
Ils ont pas démenti la biodynamie. En tout cas, il y a une ambiguïté.
Il y a une ambiguïté. Je pense que c'était compliqué. Et je pense surtout, faut pas oublier que le Z-Event, c'est pas que la sauce, c'est aussi l'ambiance pendant les streams, c'est aussi tout ça. Imagine, t'as des sub-goals, des streamers machin, et puis toutes les 10 minutes, t'as un streamer qui dit bon, ça fait quand même chier, ou qui remet ce sujet sur la table. Ça aurait créé une ambiance un peu nulle.
Je pense que Zerator avait déjà décidé. Après, c'est difficile de choisir une association.
Oh, c'est hyper cool.
Sa première préoccupation, parce qu'il a déjà eu des problèmes dans ce sens-là, c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes entre le Z-Event et les associations.
Bah, c'était l'année dernière.
Ou que les associations sont remises en cause. C'est des énormes sommes d'argent qui déclenchent des jalousies, des envies. Toutes les associations ont des détracteurs, et pas que des tracteurs, des détracteurs aussi.
Dommage, parce que l'écologie, les tracteurs, il y a un truc à faire.
Il y a un truc à faire.
Ouais, il y a un truc à faire.
Mais toute association a des détracteurs. Tu prends Greenpeace, tu prends Sea Shepherd, tu prends toutes les associations, t'as qu'à voir en ce moment.
Parce que les associations, il y a des humains aussi, et c'est normal qu'il y ait parfois des merdes faites par des humains, de l'argent mal utilisé. Parfois, c'est aussi de la maladresse, hein, faut pas l'oublier, de quelqu'un qui va injecter 100 000 euros dans ce projet-là. Il connaissait pas le sujet parfaitement, c'était à chier, et les gens vont lui dire pourquoi 100 000 euros là, compliqué.
Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi Zerator est allé aussi vite? Pourquoi en septembre? Pourquoi il a pris Good Planet? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le saura jamais.
Moi, mon hypothèse, c'est qu'il a eu plusieurs appels avec Good Planet.
Ouais.
Et que quand tu es en face de quelqu'un qui manie bien son discours, tu peux complètement te faire... embobiner, quoi. Mais on va dire convaincre quelqu'un qui va te dire « Alors, notre assaut, elle permet ça. Regardez ces exemples. » Des slides bien préparés. Quelqu'un de convaincu de son assaut. Tu œuvres pour une bonne cause. Zerator et son équipe, ils ont dû se dire « Franchement, ça a l'air vachement bien. » Tout simplement, je le vois comme ça. Et là, vraiment, j'ai envie de dire, l'erreur est humaine. Je pense que Zerator et son équipe font du mieux qu'ils peuvent. Ils sont peut-être allés un poil vite, mais je leur en veux pas. À aucun pourcent. Et je pense que personne doit leur en vouloir. C'est des gens qui ont toujours fait les choses bien, qui ont jamais trahi leurs viewers, qui ont jamais fait de saloperie. Honnêtement, je pense qu'on peut vraiment. Ils se sont trompés et c'est la vie, quoi. Et ça arrive et c'est pas grave.
Donc, Zerator a pris la décision de laisser finalement les gens voter. Alors, c'est ma deuxième question. Ouais. Est-ce que tu penses que, parce que c'est demain qu'on va savoir les 5 associations, vous pouvez voter, hein, vous avez encore le temps de voter. Il y a un site pour voter pour les associations.
Il y a un sondage, ouais.
Il y a un sondage. Donc, normalement, vous entendrez cette émission aujourd'hui, vous pouvez encore voter. Est-ce que tu penses que le fait que les gens votent pour les associations, ça va empêcher les polémiques ?
Je suis très mitigé. Moi, j'aurais préféré que Zerator prenne un peu plus de temps ou délègue ça à quelqu'un, de vraiment discuter avec des militants, mais en off, et qu'il arrive avec la liste des 5 assos. En fait, il y a un truc aussi, c'est que je trouve que ça rend la communication plus compliquée. Tu vois, il aurait dû dire... Enfin, mais c'est, après, avec des si, on refait le monde, mais arriver après cette polémique en disant « Ok, Good Planet s'en va, on a pris le temps d'étudier les choses, voici les 5 associations, et surtout, pendant le Z-Event, proposer aux gens des sliders qui, en gros, tu peux choisir où va ton argent. » Ça, je trouve que ça aurait été le... J'espère qu'il va le faire, ça, vraiment, pendant le Z-Event, mais le coup de génie. Par défaut, tu balances 20%, si tu donnes 1 euro, c'est 20 centimes à chaque assaut. Mais si tu as une asso ou 2 ou 3 ou 4 qui ne te plaisent pas, tu slides tes curseurs et
Personne
tu mets... Je suis pas d'accord parce qu'en fait, ça coupe l'herbe sous le pied des gens, des critiques. Les gens qui veulent vraiment pas donner un sou à des assos, ils mettent le slider sur l'asso qu'ils veulent.
Oui, peut-être laisser la possibilité. Mais moi, pour avoir bossé dans l'associatif, c'est très compliqué en fait. Et moi, je pense que c'est bien hein, la démocratie. J'adore la démocratie. Je me battrai toujours pour la démocratie, mais... Le truc, c'est que même si les gens votent, il y a des gens qui vont voter contre. Ces gens, en plus, investis du pouvoir de voter maintenant, vont se braquer contre le Z-Event encore plus, à mon avis. Alors, je dis pas qu'il fallait faire le forcing sur le Good Planet, mais je suis d'accord avec toi, ils auraient dû juste annuler et puis revenir avec une autre assoce après. Je sais...
Il y a quelqu'un qui a la réponse. Dash, donc c'est la personne qui travaille avec ouais. Zerator. Ce n'est pas possible de choisir l'asso à qui on va donner sur les 5. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, je sais que techniquement, ça aurait été compliqué.
Oui,
c'est par exemple ce que fait Humble Bundle. Quand tu fais des packs, tu achètes des jeux vidéo sur Humble Bundle. Tu mets tes curseurs de quel asso va prendre l'argent.
Pour 99% des gens, cette manip est déjà beaucoup trop compliquée.
C'est ce que je te dis.
Ils veulent pas se prendre la tête.
Personne se prend la tête par défaut. Mmh. Tout est à 20%. Et tu n'as rien à faire. Par contre, tu mets une petite case, je veux choisir, tu cliques sur un truc qui dit « je veux choisir où va l'argent précisément » et là, tu règles. Comme ça, les gens qui ne veulent pas,
pour ajouter à la polémique, je pense qu'il va y avoir un problème fiscal aussi parce qu'il faut comprendre qu'en France, tant que tu ne donnes pas une association reconnue d'utilité publique et est-ce que toutes ces associations qu'il a mises, elles seront reconnues d'utilité publique? Elles sont toutes reconnues d'utilité publique.
Les assos qu'il a préposés.
C'est que dans ce cas-là que la fiscalité française considère qu'il y a don. Sinon, c'est revenu.
Mais de toute façon, honnêtement, là, on donne notre avis. Il n'y avait pas de bon choix pour Zerator, les gens.
Non.
J'aurais jamais aimé être à sa place. Personne n'aurait aimé être à sa place. Je pense que mentalement, c'est compliqué. Donc moi je lui souhaite plein de courage et de bonheur et tout
moi,
ça.
Moi j'ai une solution pour Zerator pour plus qu'il y ait de problèmes et d'ailleurs nous c'est ce qu'on va faire. En fait on va lancer le N-Event.
Le N-Event.
Et l'argent ça sera que pour nous.
Très
plus
bien.
De polémique possible.
C'est vrai. C'est ce qu'il a dit je crois en vanant
Zerator. On va faire du caritatif pour nous en fait.
Tout à fait.
Donc... Voilà, si vous ne nous aimez pas, vous venez pas, mais vous donnez que l'argent à nous.
Oui, c'est vrai que le N-Event...
Oui, ça fait un peu N-Event.
Le tech...
Non, mais ça serait bien, on rassemble que des influenceurs polémiques et non. On n'est que sur les bad buzz, l'indignation.
Non, non, il ne faut pas.
Tu sais, il y aurait des complotistes qui ont des petits stands.
De la biodynamie, par
exemple. De la biodynamie. Ouais, à fond ouais. Le N-Event.
Mais voilà, effectivement, on a essayé de vous récapituler ce qui s'est passé pour le Z-Event. Si vous avez jamais suivi, honnêtement, moi, je vous le dis, c'est un des événements Twitch les plus cool à suivre. Il y a vraiment quelque chose de particulier. C'est quelque chose qu'on ne voit même pas sur dans d'autres pays. Dans d'autres pays, on est Twitch. Le Twitch français est l'une des on va dire on est l'un des pays les plus en avance sur notre temps par rapport aux événements comme ça, le fait de mettre en commun des gens, donc ça crée un événement vraiment unique et passer au-delà de cette polémique, je vous le dis vraiment, et aller voir le Z-Event, c'est vraiment hyper chouette.
C'est hyper chouette et Zerator, même si j'imagine bien que c'est pas une personne parfaite du tout, c'est quand même quelqu'un qui fait un truc incroyable. Mmh. On est toujours là, la France, on est trop nul.
On est trop fort.
En termes caritatifs, ce qu'il a fait avec le Z-Event n'a pas été fait ailleurs dans le monde.
Mmh.
On a une communauté extrêmement
présente,
ouais. Et force Azerator. Parce que chapeau de garder la tête froide quand les gens... En plus, on en parlait tout à l'heure, tout ça se passe sur des laps de temps.
De un jour.
Mais même pas, ça se passe en quelques minutes. Good Planet a été dans la sauce en quelques minutes. Il a fallu 3 heures à un mec pour faire des slides, pour les démonter derrière.
Ouais.
T'as pas le temps de te défendre.
T'as pas le temps.
Tout va tellement vite. Le buzz, le contre-buzz, l'archi anti-buzz, bouclier anti-buzz, machin. C'est un ping-pong de réputation qui donne le tournis. Et quand t'es dedans, je plaisantais à ça, mais t'imagines tes Zerator, le temps que t'ailles aux toilettes, ton Z-Event peut s'effondrer, le bad buzz, il est parti.
C'est assez terrible, ouais.
Donc il faut faire quoi? Il faut continuer à lire Twitter quand on est aux toilettes?
Non, mais envoyer des gentils messages sur Twitter, vous croyez pas, hein, ça fait du bien aussi.
Ouais, franchement, ça c'est un truc, si vous voulez lutter contre la toxicité, pensez à dire aux gens que vous aimez bien, ou qui font des choses bien, que vous les aimez bien,
ouais.
Ou qui font des choses bien.
Tout à fait.
Plutôt que d'être à l'affût du reproche que vous pourriez faire, de la faute de français, de la... Parce que même ça, pour moi, entretient une certaine toxicité des réseaux. Mmh. De toujours être à l'affût des reproches.
Donc vous qui écoutez cet épisode, je vous invite à tweeter. J'adore le rendez-vous tech,
voilà.
De Patrick Béja, enfin de @notepatrick.
Exactement.
C'est une excellente émission.
Allez faire des compliments.
Voilà.
Aux influenceurs que vous aimez bien ou qui vous influencent positivement.
Exactement. Est-ce qu'on passe au reste de l'actu ?
On passe au reste de l'actu, on va la faire laser parce que là, on va lui faire une émission de 2 heures, le pauvre Patrick et la pauvre Fanny qui va avoir du mal.
Allez, c'est parti.
C'est parti. Alors, très rapidement, on va parler de Apple qui déploie la bêta publique d'iOS 16, d'iPad OS 16 et tout le tralala
d'Apple.
Nous, on était déjà dans la bêta développeur.
Elle est très bien, la bêta.
Elle est bien, c'est stable. Si c'est pas, on va dire, le smartphone absolument vital de votre boulot, vous pouvez passer sur la bêta publique.
Tout à fait.
Elle est vraiment bien.
Oui, oui.
Que ça soit sur iPad, là, ce matin, moi, j'étais circonspect, mais il y a des trucs pas mal à... Comment ça s'appelle?
À Stage Manager.
À Stage Manager.
On en reparlera.
On en reparlera.
Tu peux y aller, Fonfon, effectivement.
Franchement, vous pouvez y aller. La bêta, à moins que vraiment votre smartphone soit à l'entreprise et que ça soit délicat, vous pouvez y aller. Samsung arrêterait les frais avec les processeurs Exynos. Une bonne nouvelle, ça.
Exynos.
Oh, joli.
Hein,
Exynos.
Oui, il y avait des problèmes avec les Exynos.
Ils étaient toujours plus lents.
Ils étaient toujours factuellement plus lents que les Snapdragon.
Alors, pourquoi, en fait, ils faisaient ça?
C'est une très bonne question. Là,
tu n'as pas la réponse.
Non, j'ai pas la réponse.
Moi, je l'ai.
Tu l'as? Ben, vas-y. Oh, le crâneur.
Non, c'est simplement pour mettre en compétition des fondeurs. Si tu n'as qu'un seul provider de puces...
Oui, bah oui, t'as raison.
Il peut pratiquer le prix qu'il veut. Donc, Samsung, en découpant le marché international entre eux et un autre fabricant de puces, ça permet de négocier sur les prix.
À quand le Uber des puces de smartphone?
Tout à fait.
Tout à fait.
L'économie circulaire de la puce.
C'est le fameux marché aux puces.
On va parler d'émojis.
Oui.
Tu sais quoi? Tout le monde me dit, mais Jérôme, les émojis, c'est pas important. Ben, c'est faux. Les émojis, c'est ce qui, et je le dis très sérieusement, c'est ce qui se rapproche le plus d'un langage universel, numérique, d'émotion. Et ce qui manque dans notre société qui se numérise, c'est l'émotion, c'est le partage d'émotions, des subtilités de l'émotion dans la communication. Aujourd'hui, nos communications sont verbales, mal comprises, mal interprétées. On se pourfend sur Twitter juste parce qu'on n'a pas compris l'intonation de certains messages.
Et, oui.
Et les émojis sont là pour nous aider. Et pourquoi je parle des émojis? Parce qu'il y a une révolution.
Mmh.
Jusqu'ici, la génération non-boomer, quand ils disaient « mort de rire »,
ouais, MDR,
ils utilisaient l'émoji qui pleure.
Oui.
Mais qui pleure pas de rire.
Non.
Qui pleure vraiment.
Oui, qui pleure vraiment.
Et il n'y avait que les boomers
qui
utilisaient
pas
l'émoji de « je rigole et il y a des larmes qui me sortent des yeux ».
Ouais, qui voilà. Effectivement était un peu...
C'était considéré, voilà.
Ouais.
Si tu utilisais cet émoji, c'est que t'es un vieux. Les jeunes, c'est en gros, ça. Utilisaient les vraies larmes pour dire qu'ils étaient morts de rire. Donc, un espèce de code secret. Voilà, Grolb.
Comme il a mis Grolb.
Et voilà, est un boomer. Puisqu'il utilise...
Quelqu'un dans notre chat.
Eh bien, c'est en train de changer.
Eh oui.
Puisque, bien sûr, les jeunes sont pétris de contradictions. Et il suffit pour qu'on décode un des trucs. Et l'émoji « je pleure de rire
ouais. »
est en train de revenir en tête de l'émoji le plus utilisé sur Internet. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de boomers? Ou est-ce que ça veut dire que les jeunes ont repris le contrôle de l'emoji?
On pose un vrai débat là.
C'est un vrai débat. C'est un vrai débat.
En tout cas, utilisez les emojis que vous voulez, bien sûr.
Voilà.
Voilà.
Ma mère utilise pas. Alors moi, je sais que on m'a pas mal reproché dans ma famille, les jeunes de ma famille. Jérôme, tu mets trop de clins d'œil partout.
Oui, parce que le clin d'œil est un peu coquinou, je trouve, l'emoji clin d'œil.
Ouais, moi, ça veut dire deuxième degré pour moi.
Si tu envoies clin d'œil...
C'est wink, quoi.
Bah, si tu envoies clin d'œil et aubergine en même temps...
Bah, ah oui, non, mais...
Ne le fais pas.
Même. Non, mais je suis d'accord, mais quand même. Non, mais oui, mais wink pour appuyer... Moi, je ponctue beaucoup avec le wink. Genre, je rigole.
Bah ouais, mais pour moi, c'est pas l'emoji du je rigole.
Alors, wink. C'est quoi l'emoji du je rigole?
C'est
quoi l'emoji du second degré?
Pour moi, l'emoji du second degré, c'est celle qui fait un bisou comme ça, là.
Ah non, bisou, moi, c'est je t'envoie de l'amour.
Eh ben moi, pour moi, c'est l'emoji genre...
Ah,
genre...
c'est pour ça que tu m'envoies toujours de l'amour.
Je t'envoie des bisous, exactement.
Aïe, aïe, aïe,
exactement,
aïe, aïe,
exactement.
Aïe, 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 aïe. Et on va bientôt terminer. Encore deux petites brèves. Pourquoi Facebook et Instagram pourraient ne plus fonctionner en Europe cet été? Scandale. Est-ce qu'on n'aura plus de Facebook
c'est
et
quoi,
d'Instagram?
RGPD, loi européenne de protection.
C'est en Irlande. La charge vient de la DPC.
Tu veux dire
Data Protection Commission.
La DPC.
La DPC.
Yeah.
L'équivalent irlandais de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notre fameuse CNIL.
Mm-hmm.
Le régulateur irlandais a prévenu ses homologues européens qu'elle comptait empêcher Meta, donc la maison mère de Facebook, d'envoyer des données utilisateurs d'Europe aux États-Unis. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il n'y a plus effectivement le fameux bouclier,
privacy shield
entre l'Europe et les États-Unis. Donc, s'ils vont jusqu'au bout, Facebook n'aura pas le droit d'envoyer des informations. Et parlons un petit peu de développement, mais si tu ne peux pas envoyer des données utilisateurs, tu ne peux pas utiliser le service. Parce que quelqu'un qui clique sur un bouton de Facebook, c'est une donnée utilisateur.
Oui, mais là, il parle des données utilisateurs qui sont utilisées pour de la publicité.
En gros, tu dis, est-ce que Facebook pourrait quand même techniquement marcher on n'envoyait plus de données utilisateurs du tout aux États-Unis?
Bah, ils mettent des serveurs en Europe.
Oui, non, mais d'accord. Mais là, je te parle d'envoi aux États-Unis. Moi, ce que j'essaie de te faire dire, c'est que les données utilisateurs sont mélangées, les données utilisateurs de quelqu'un en train d'utiliser un site qui permettent de faire fonctionner ce site ou cette appli. Et après, les données utilisateurs comportementales, mais tout ça est imbriqué.
Oui,
c'est-à-dire
mais
le
fait
que quelqu'un clique sur un bouton est aujourd'hui à la fois une donnée informatique de « j'ai appuyé sur ce bouton, donc tu dois m'envoyer quelque chose ». Une ligne de code, machin. Mais c'est aussi une donnée comportementale.
Oui, mais ils peuvent dissocier les deux informations.
D'accord.
Non, complètement.
Bon.
Voilà.
Donc, est-ce que ça veut dire quoi? Putain, ça serait bien un été sans Facebook et sans Instagram.
Ouais, moi, je suis pas forcément...
Ce serait rigolo comme expérience.
Ce serait rigolo, mais moi, je suis pas forcément dans l'anti-Insta, l'anti-machin.
Est-ce que tu penses que des gens ne partiraient pas en vacances s'ils peuvent pas partager sur Instagram?
Je pense que ça chamboulerait pas mal de choses.
Ouais, je pense que...
Nos sociétés sont...
Ça fait partie du plaisir des vacances pour certaines personnes. On peut juger du bien fondé, mais moi, j'avoue que si je partage pas un minimum mes paysages de vacances sur Instagram, je suis un chouï frustré.
Mais moi, c'est un truc que j'avais un peu de mal. Tu vois, ma copine prenait beaucoup les repas en photo. Et au début, c'est bizarre.
Ah, moi, j'adore.
Mais en fait, avec du recul, on en a un peu discuté un moment. Et en fait, je trouve qu'elle a raison parce que 2 ans plus tard, des fois, on se revoit des souvenirs. On
mais
est
c'est
là.
Ça.
C'est trop bien de revoir des souvenirs.
Moi, je voyage avec mon ventre beaucoup.
Ouais.
Et pour moi, il y a des repas, pas tous. Mais il y a des repas, c'est des souvenirs émouvants de vacances, au même titre qu'un coucher de soleil.
Donc c'est en ça où maintenant je suis beaucoup moins dans le jugement là-dessus.
Moi j'aime la belle bouffe, la bonne bouffe, mais j'aime la belle bouffe.
Et puis
aussi.
Si les gens veulent être un peu narcissiques, bon bah oui, do it quoi, tant pis, c'est pas grave.
Mais j'aime bien partager aussi ma bouffe sur Instagram, on peut me le reprocher, mais j'aime bien aller sur mon Instagram, il y a beaucoup de bouffe.
Ouais, à l'époque on envoyait des cartes postales, on disait ce qu'on a fait dans les derniers
mais
jours.
Mais oui, c'est ça.
C'est pas, voilà.
Hein Bref. On va pas faire les boomers. Et on termine. Apple fait la chasse au logiciel espion. Ça, c'est assez intéressant. Peut-être que Patrick le développera plus. Mais alors que Uber, en 2016, faisait des killer switch, Apple va proposer en 2023 un mode qui s'appelle le lockdown mode, qui va être un mode assez extrême sur ton iPhone.
Mais c'est déjà en place. Hein, tu peux déjà l'essayer. Fait,
mais... les particuliers n'y auront pas droit. C'est réservé si tu le demandes. Ouais. En fait,
à développer.
Ouais. C'est la fonctionnalité n'est pas destinée au grand public. Seuls les utilisateurs qui ont déjà été la cible d'attaque pourront le solliciter. Okay. En fait, c'est une ultra mesure.
Non, mais je l'ai vu disponible moi, donc c'est pour ça.
En
que ça
fait,
me paraît
il faudra être journaliste, homme politique ou célébrité, avoir déjà subi une attaque, être certifié, genre. Une attaque Pegasus ou ce genre de choses dont on a déjà parlé. Et Apple t'autorisera à activer un truc qui s'appelle effectivement le lockdown mode, qui va enlever plein de possibilités à ton smartphone, mais qui le rend virtuellement inattaquable.
Ouais, enfin ça réduit beaucoup les surfaces d'attaque, notamment pour donner un exemple pour que vous l'imaginiez. Quand tu ouvres ta messagerie, tes SMS, ça ne chargera pas du tout des images ou des choses comme ça par défaut. Parce que c'était un des vecteurs d'attaque, c'est que t'envoyais une image vérolée qui activait du code malicieux. Ce mode-là, par exemple, t'empêche par SMS d'ouvrir des photos immédiatement ou des choses. C'est un exemple, voilà, pour l'illustrer. Et c'est très bien.
Voilà, en tout cas, il y a plein de petites news, mais on est déjà à 1h30 d'émission.
Ouais, on va terminer là.
On vous souhaite, en tout cas, d'excellentes vacances. On en
Profitez
souhaite
bien.
D'excellentes à Patrick. On
Mettez-vous au frais.
Fanny, tu n'étais pas là tout à l'heure, mais on a fait une troisième interruption que tu pourras enlever au montage.
Tout à fait.
On va essayer de t'envoyer les minutes. Désolé pour les interruptions. On prend... un petit peu de temps quand même pour dire qui nous sommes à ceux qui ne nous connaissent pas, qui sont en train d'écouter ce rendez-vous tech.
Tout à fait.
C'était donc Marion qui nous a quittés un petit peu plus tôt, Jérôme et Guillaume. Mm-hmm. Nous faisons partie de la chaîne YouTube Nowtech, de la chaîne Twitch aussi.
Nowtech
puisque,
Team.
En temps normal, on fait une émission tous les matins à 8h, une espèce de revue de presse de la tech,
de
tous
la
les
tech
matins
et de la société.
De la semaine. Là, nous sommes en pause estival juillet-août, mais ça reprendra en septembre.
Tout à fait.
La deuxième semaine de septembre, pour être exact, à partir de 8h du matin. En tout cas, on remercie beaucoup Patrick de sa confiance de nous laisser entre nos petites mains son émission. On espère ne pas avoir mis du caca partout.
Non, tout va bien. On a mis des emojis caca partout.
On avait du lourd aujourd'hui. L'émission était un petit peu longue. On avait pas mal de politique, etc. Donc j'espère que il n'y aura pas non plus des torrents de boue dans les commentaires.
Ça devrait
mais,
aller.
Ça devrait aller.
Vous êtes des gens adorables.
On remercie ceux qui nous ont suivis en live aussi. On rend l'antenne, comme on dit autrefois. À vous les studios, nous rendons l'antenne. Et très bonnes vacances à tous.
Ciao.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.